Après Élisabeth II, elle était la dernière reine d'Europe. Margrethe II, reine du Danemark depuis 52 ans, abdique ce dimanche 14 janvier. Elle passe la main à son fils, le prince Frédéric, qui devient Frédéric X. Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Cette Margrethe II, on la connaît mal en France et on l'a un peu découverte à l'occasion de son abdication. Avec moi aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de cette reine francophone, grosse fumeuse et artiste, la journaliste Anne-Françoise Hiver, correspondante du Monde en Scandinavie. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour.
On ne la connaît pas beaucoup en France, cette reine Margrethe II. C'était quel type, quel style de reine ?
Oui, alors c'est une reine un peu discrète, avec quand même une forte personnalité, un peu iconoclaste. Je pourrais commencer en disant par exemple qu'elle a fumé très très longtemps. Elle ne s'en cachait pas, même si elle le faisait plus publiquement depuis un certain temps. C'est une reine qui ne se teint pas les cheveux, qui assume complètement. Au-delà, chose plus importante peut-être, elle est absolument passionnée d'archéologie. Elle souhaitait devenir archéologue avant de devenir reine. Et c'est une artiste. Elle continue encore aujourd'hui de peindre, de faire les décors, de concevoir les costumes, des ballets pour l'opéra à Copenhague, assez régulièrement d'ailleurs. Elle fait aussi des expositions. Et pour la petite anecdote, elle avait illustré la version en danois du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et dernier élément, peut-être qui pourrait intéresser les Français, c'est une reine qui parle français puisqu'elle a été mariée à un Français, Henri de Montpezat, et qu'elle a un château à Quai, dans le Lot, où elle passe ses étés, où on peut la voir régulièrement dans les marchés, seule, elle fait ses courses l'été, et les gens la connaissent bien d'ailleurs.
C'est une reine donc assez accessible.
C'est une reine assez discrète, je dirais accessible, je ne suis pas sûre qu'elle le soit, oui, quand elle fait son marché en France pendant l'été, quand elle n'est pas reine en fait, quand elle n'est pas dans son rôle officiel. Autrement, elle reste, comparée par exemple à son fils qui va lui succéder, elle est un peu plus distante que lui, elle est aussi d'une autre génération.
Est-ce qu'elle avait un vrai rôle au Danemark ? Quelles étaient ses prérogatives ? Est-ce qu'on peut la comparer à une reine comme la reine Elisabeth II ?
Oui, même si le Danemark est un pays bien plus petit que l'Angleterre, donc elle a le statut de chef d'État, c'est elle qui reçoit les chefs d'État étrangers. Par contre, son pouvoir reste extrêmement limité, c'est-à-dire qu'il est essentiellement protocolaire. Elle nomme les ministres, mais des ministres qui sont évidemment désignés par le Premier ministre, par des élections, par le Parlement, etc. Et elle participe à beaucoup de cérémonies. Elle représente le Danemark à l'étranger.
C'est un rôle très symbolique. Ça ne l'empêche pas d'avoir un avis et de peser parfois sur le débat public.
En effet, et notamment dans le cadre de ses discours du Nouvel An. Donc on parle beaucoup du dernier, puisque c'est à cette occasion qu'elle a annoncé qu'elle allait abdiquer. Mais c'est une tradition. Tous les 31 décembre, elle s'adresse aux Danois, à la télévision, et il lui arrivait de leur livrer des messages dans l'air du temps. Dans les années 80-90, par exemple, elle s'est adressée à eux pour les encourager à la tolérance quand beaucoup d'étrangers, de réfugiés arrivaient au Danemark. Son message a d'ailleurs un peu évolué les dernières années, où elle a reconnu, même dans des interviews, que l'intégration n'avait pas toujours fonctionné, qu'il fallait poser des conditions aux étrangers qui arrivaient au Danemark, etc. Donc, avec un message un petit peu qui correspondait à ce que beaucoup de Danois pensaient probablement et qu'elle a osé dire en touchant un petit peu à la politique, mais sans jamais vraiment s'aventurer. C'est pas une reine qui vote, par exemple.
Et donc, elle n'a pas le droit d'exprimer d'opinion politique non plus.
Non, exactement. Donc, c'est la même chose qu'en Angleterre, c'est la même chose que dans les autres monarchies européennes.
D'accord. Elle est donc sur le trône depuis 52 ans. Le 14 janvier, ça fera 52 ans. Beaucoup de Danois n'ont connu qu'elle comme reine. Comment la considèrent-ils ? Est-ce qu'ils lui sont très attachés ?
Alors, c'est une reine qui est extrêmement populaire. Il y a plusieurs sondages qui ont été réalisés ces derniers jours, donc juste avant qu'elle annonce qu'elle souhaitait quitter le trône, et puis même depuis, on est à des taux de popularité de 80 à 90%. C'est peut-être un peu comme la reine anglaise, en fait. Elle est toujours un repère pour ces Danois. Vous le disiez, elle a régné pendant 52 ans. Elle a connu de très nombreux premiers ministres, elle a rencontré énormément de chefs d'État étrangers, elle a aussi beaucoup voyagé, donc elle a représenté le Danemark à l'étranger. Et récemment, elle a célébré son jubilé, donc ses 50 ans sur le trône, et là, on a vu vraiment une ferveur nationale, même si les célébrations étaient un petit peu gâchées par la cérémonie du Covid. Les gens étaient vraiment très, très présents et ont exprimé leur soutien, leur admiration, leur attachement à la reine.
Elle a créé la surprise le 31 décembre dernier, pendant ses vœux aux Danois. Elle a annoncé qu'elle abdiquait. Pourtant, en 2019, elle avait dit l'inverse. Elle avait dit qu'elle n'abdiquerait pas et on pensait qu'elle allait, comme la reine Elisabeth, rester jusqu'au bout. Est-ce qu'on sait ce qui l'a fait changer d'avis ?
Ce que je peux dire d'abord, c'est que ça a été un choc monumental, en fait. Je parlais avec des experts, des gens qui suivent l'actualité de la cour, mais ça concerne absolument tous les Danois. Personne ne pouvait imaginer qu'elle allait annoncer son abdication dans son discours le 31 décembre. Enfin, ça a vraiment été eu un écho énorme dans le pays. On vient d'apprendre aujourd'hui que, a priori, elle n'en aurait informé le prince héritier que le 28 décembre, donc ce qui fait un peu planer des doutes sur les circonstances de cette décision et les raisons pour lesquelles elle intervient aujourd'hui. Elle a effectivement dit absolument tout le temps qu'elle n'abdiquerait pas. Moi-même, je l'avais rencontrée en août 2018 au palais d'Amalienborg pour une interview en tête-à-tête, en français d'ailleurs, juste avant la visite d'État d'Emmanuel Macron à Copenhague. Et elle m'avait dit, à moi aussi, qu'elle ne quitterait pas le trône. Ça semblait absolument impensable pour elle. Cependant, elle avait quand même laissé une fenêtre en disant qu'elle resterait, elle continuerait à gouverner jusqu'à ce qu'elle soit en état de le faire. Elle a subi une opération du dos très lourde en 2023. Les hypothèses ici circulent sur le fait qu'elle n'est vraiment plus en forme et qu'elle a estimé que c'était donc le moment de partir.
Vous le dites, c'était une reine très très populaire. Pourtant, quand elle est née, elle n'était pas appelée à régner.
Non, en effet, parce que la loi, la Constitution disait que c'était les héritiers de sexe masculin qui devaient devenir roi. Donc, il a fallu changer la loi parce que ses parents ont eu 3 filles. Elle est donc l'aînée. Elle a donc grandi pendant 13 ans sans être princesse héritière, sans être destinée à succéder à son père. La Constitution a dû être changée, amendée. Un référendum a été organisé et 78% des électeurs danois ont voté pour la laisser monter sur le trône. Quand je l'avais rencontrée, elle m'avait dit qu'elle était heureuse de devenir reine parce que ça voulait dire qu'elle ne serait pas envoyée à l'étranger comme ses sœurs, parce qu'à l'époque, c'était un peu la mode de marier les princesses européennes à des princes étrangers. Puisqu'elle était reine, elle pourrait rester au Danemark, ce qu'elle a fait d'ailleurs, tandis que ses sœurs ont épousé des princes européens et ont quitté le Danemark.
En octobre 2022, il y a eu un mini-scandale dans ce royaume, vous le dites, assez discret, assez calme. Elle a annoncé qu'elle retirait aux enfants de son fils cadet, Joachim, leur titre princier. Est-ce qu'on sait pourquoi elle a fait ça ?
Il y a 2 raisons. Officiellement, elle s'en expliquait parce qu'il y a eu des réactions effectivement très très houleuses de la part du prince Joachim, qui est donc le frère cadet du prince Frédéric, qui va monter sur le trône, et de sa femme Marie, qui ont dit qu'ils n'avaient pas compris cette décision. Elle a expliqué en disant qu'elle voulait rendre leur liberté, assurer leur liberté à ses petits-enfants, donc les 4 enfants du prince Joachim, qui de toute façon n'étaient pas appelés à recevoir d'apanage de l'argent de l'État et qui n'aurait d'ailleurs eu aucune fonction officielle. Donc elle considérait un petit peu que ces titres étaient des boulets pour eux. Donc elle voulait les en débarrasser. Il y a une autre explication qui est aussi sa volonté de moderniser la monarchie. On a vu des décisions similaires prises un petit peu dans toutes les cours européennes, avec un effort pour réduire le nombre de personnes qui disposent d'une enveloppe budgétaire financée donc par le contribuable. Selon des experts danois aussi, elle avait envie de le faire tant qu'elle était reine pour ne pas laisser ce genre de décision à son autre fils, donc le prince Frédéric qui devient roi, pour éviter des tensions entre des frères. Donc c'est un peu la raison pour laquelle elle l'aurait fait à ce moment-là.
Merci beaucoup Anne-Françoise.
Merci.
Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On vous retrouve demain pour parler du nouveau roi du Danemark, Frédéric X. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer l'épisode suivant. À bientôt.